Y a-t-il?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour, c'est Cinérama. Nous allons aujourd'hui parler bien essentiellement de films qui sont dans les salles depuis le 11 octobre, sauf le tien, Manu.
Blade Runner 2049, mais je vous parlerai aussi de Détroit de Catherine Bigelow.
On pourra parler aussi de L'école buissonnière de Nicolas Vanier, puis de Kingsman, le cercle d'or. Et puis, alors, on aura deux interviews, celle de Laurent Cantet pour L'Atelier, et puis une autre de Tony Marshall pour Numéro 1. C'est Cinérama.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Les réplicants sont comme les autres machines. Ils sont ou bénéfiques ou nocifs. S'ils sont bénéfiques, c'est pas mon problème.
Alors dire que Blade Runner 2049, un suite du film culte de Ridley Scott, était attendu au tournant est un euphémisme. Alors est-ce de l'opportunisme, de l'inconscience ou du courage de la part des auteurs que de nous replonger dans cet univers de réplicants imaginé au départ par le génial Philippe K. Dick, auteur de la nouvelle au titre très étrange, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Alors n'oublions pas aussi qu'en 82, date de sa sortie en France, Blade Runner fut très mal reçu à la fois par le public et la critique, sans doute désarçonné par une œuvre contemplative, plastiquement sublime, empruntant sa facture visuelle à l'univers du clip et de la pub, servant un récit complexe, s'inspirant des romans noirs. Alors après s'être imprégné de la SF avec Premier Contact, Denis Villeneuve accepte la lourde tâche de succéder à Scott. Le scénario reprend la structure narrative de l'original tout en inversant les perspectives. En 2049, au cœur d'une société clivée entre les humains et les androïdes, un officier K, un Blade Runner, est chargé de régler l'ordre établi, c'est-à-dire trouver et éliminer tous les réplicants qui n'obéissent pas aux humains. Mais une enquête l'impliquant directement, menaçant par la même occasion de bouleverser la face du monde, va l'amener à s'interroger sur ses propres origines. Alors il se met en quête de retrouver Rick Descartes qui pourrait être intimement lié à son existence ou sa création. Alors dans le premier film, hein, le flic incarné par Harrison Ford se demandait s'il n'était pas lui-même un réplicant et K, dans sa traversée existentielle, commence à douter de sa propre nature. Le point de départ est excitant, propice à soulever beaucoup de questionnements métaphysiques, notamment sur la mémoire et les souvenirs.
L'humanité ne peut survivre. Les réplicants sont l'avenir de l'espèce. Mais je ne peux en produire qu'en quantité limitée.
Il a toutes les gâchettes de la ville. Je vous ai vous.
Faut l'arrêter à tout prix.
Qu'est-ce que tu veux?
Vous pourriez m'aider à résoudre une affaire.
Il se construit une armée.
Dites-moi ce dont vous vous souvenez.
Ils savent que t'es ici.
Le scénario est beaucoup trop littéral et explicatif pour convaincre. C'est un peu la déception de Blade Runner 2049. Cette absence d'ambiguïté, de mystère et même de poésie qui traversait littéralement l'œuvre de Scott qui, au passage, n'a sans doute jamais fait mieux. Alors c'est un peu en creux finalement que le film de Villeneuve est passionnant dans ses errances, dans ses images un peu fantomatiques, filmant un Ryan Gosling à la fois désincarné et mélancolique. Lorsqu'il rêve de son enfance, un furtif moment de trouble laissant planer un petit peu de mystère sur son identité. Alors d'une manière un peu étrange, le film m'a beaucoup fait penser à une sorte de variation, on va dire un peu plus adulte certes, un très beau film de Steven Spielberg, Intelligence Artificielle, parce que Gosling est un peu filmé comme un type un peu à la cool attitude, un peu juvénile, qui cherche à savoir qui il est. Alors Blade Runner 2049 se démarque aussi de son modèle, hein, du premier, par une démarche esthétique différente, voire antinomique, ce qui mettra sans doute en colère les fans hardcore. Alors au trop-plein du film de Scott, hein, multipliant les effets graphiques avec enseignes, les vitrines clinquantes, une population grouillante dans une ville cosmopolite fascinante, Villeneuve répond par un ascétisme déstabilisant. Il filme le vide, des lieux désertés, un peu à la manière de ses maîtres, hein, qu'il cite d'ailleurs abondamment, Tarkovsky ou Antonioni. Il se dégage un climat, enfin, mortifère de désolation qui finit quand même par vous contaminer. Hélas, pas toujours dans le bon sens. Hein. Le décrochage est parfois pas loin. À force d'épurer, l'auteur de Prisoner s'enferme dans une vision futuriste dévitalisée, une froideur clinique n'impliquant jamais le spectateur émotionnellement. Et donne du coup la fâcheuse sensation de se regarder filmer, d'accentuer la lenteur jusqu'à saturation pour qu'on ait un peu le temps d'admirer l'aspect décoratif du film. Alors, Mais le projet demeure quand même sincère et courageux à l'heure actuelle, hein, baignant comme beaucoup de films de Villeneuve dans des lumières ocre, hein, ce qui change visuellement du précédent. Blade Runner 2049 demeure un bel objet, un blockbuster contemplatif, avare en scènes d'action, ça il faut le dire au public quand même. Plus intéressant que pour ce qu'il suggère que ce qu'il dit, l'apparition tardive d'Harrison Ford, hein, qui reprend son rôle d'origine, là apporte un peu de chair, d'incarnation physique dans cette suite relecture qu'il faudra sans doute revoir une deuxième fois à tête reposée, histoire de ne pas le surestimer ou le descendre en flèche, ce qui est un peu le cas un peu des critiques ou des spectateurs actuellement. C'est un peu c'est le chef-d'œuvre de la semaine ou c'est très décevant, ça vaut pas l'original, et je pense qu'il faudra peut-être le revoir d'ici quelques mois.
Bah, c'est l'occasion de perdre 6 heures au total, hein, parce que c'est quasiment 3 heures, le temps de s'installer, tout ça. Voilà, à noter qu'il a fait un départ plutôt bon, mais sachant qu'il y a moins de séances, il est derrière Le Sens de la Fête, hein, la grosse comédie
mais
française.
Mais il a fait un bide aux États-Unis, hein, oui. En revanche.
Mais les Français réagissent différemment à Blade Runner, j'imagine.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passerait aisément.
Et nous allons maintenant écouter le premier interview de cette émission. Avec numéro 1, Tony Marshall nous invite à suivre le combat d'une femme soutenue par plusieurs autres pour accéder à la tête d'une entreprise du CAC 40, ce qui serait une première. Emmanuel est une ingénieure brillante et volontaire qui a gravi les échelons de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Alors elle pourrait dans quelques années aller plus loin encore, mais on lui propose mieux, la tête d'une entreprise du CAC 40. Mais le chemin pour y arriver ne sera pas simple, car ce monde du CAC 40, à l'image de la finance, est un monde phallocrate, volontiers misogyne, et on ne peut pas y accéder sans un sérieux coup de main et sans coup bas non plus. Avant d'entendre Tony Marshall nous en parler, eh bien nous écoutons Marine qui a rencontré la réalisatrice et a vu numéro 1.
Après avoir écumé les comédies plus ou moins légères comme Vénus Beauté Institut, Tony Marshall, seule réalisatrice à avoir remporté le César du meilleur réalisateur, puisque le masculin l'emporte comme le veut la tradition, Tony Marshall revient dans un tout autre registre que l'on pourrait qualifier de polar d'entreprise. Le film, presque austère dans sa mise en scène, ne perd jamais de vue son message, extrêmement partisan évidemment, mais il sait rester subtil, notamment grâce à une galerie de personnages très bien écrits et très bien interprétés. Autour d'Emmanuel DeVos, on retrouve quelques figures viriles, voire virilistes, telles que Benjamin Biolay, Richard Berry, et surtout beaucoup de documentation de la part de la réalisatrice. Le monde de l'entreprise, son paternalisme bienveillant, son plafond de verre, ses harcèlements continuels semblent avoir été parfaitement documentés et reconstitués par Tony Marshall. Les personnages sont tous fictifs, hein, le réseau de femmes d'influence dont il est question par exemple en revanche existe bien. Les dialogues également sentent malheureusement le vécu, faisant état du sexisme ordinaire inhérent au quotidien de l'entreprise. À l'instar du personnage joué par Emmanuel DeVos, qui n'adopte jamais un comportement masculin ou dominateur pour parvenir à ses fins, le film n'est pas dans une démarche de dénonciation ou de victimisation. Il dresse un constat, alarmant certes sur la misogynie de l'entreprise, mais il est surtout poussé par un élan très positif et donc très salutaire. Le message qu'entend faire passer Tony Marshall dans numéro 1, c'est que s'il y avait davantage de femmes à la tête des grandes entreprises, eh bien le monde des affaires serait différent et sa gouvernance n'en serait que meilleure. Et son film étant non cela un excellent film militant, et on écoute justement Tony Marshall approfondir un petit peu le sujet.
Réussir dans un secteur comme le vôtre pour une femme, c'est assez remarquable.
Emmanuel, si je vous dis Antea, ça vous inspire quoi ?
J'ai commencé là-bas quand c'était la Compagnie Nationale des Hommes, mais j'imagine que vous le savez.
Stanislas Ribaud est très malade. Personne ne le sait, et la raison c'est que Ribaud n'a pas préparé sa succession. Et c'est ouvert.
Prendre la tête d'Antea ?
Devenir la première femme PDG d'un groupe du CAC 40.
Un film ne peut prendre en charge qu'un personnage, et donc j'ai choisi de la faire aller jusqu'au CAC 40 parce que c'est quand même le symbole en France de l'étape ultime d'un pouvoir. Mais en fait, profondément, je crois que ce que j'essaye de défendre dans le film, c'est que si les femmes arrivaient de façon conséquente à la tête des entreprises, des petites, des moyennes, des grandes, voire du CAC 40, il faut qu'elles arrivent à des postes de décision. Et je pense que ça changerait un tout petit peu, non seulement les rapports dans l'entreprise, mais probablement un peu la société. Et que ça n'en serait que bénéfique pour tout le monde.
Comment tu peux accepter un truc pareil ?
Tu continues
parce que moi, je sais que tu es fragile.
Est-ce que vous avez bien identifié votre ennemi ? Baumel n'est pas un homme de réseau parmi d'autres. C'est le meilleur.
Il faut trouver qui c'est. Et vite verrouiller.
Et moi, je voulais faire un personnage, justement, de quelqu'un qui soit réfléchi, pugnace, puissante, mais compétente, mais pas dans l'agressivité, pas dans la violence, pas une tueuse, ce qu'on appelle une tueuse. Voilà. Je ne crois pas que les femmes ont besoin d'être des tueuses.
Non mais vous voulez me faire peur.
On vous prépare.
Faut rencontrer les grands patrons de presse, sortir avec d'autres dirigeants. Il faut qu'on vous voie partout.
Il existe de plus en plus. Il y a Women at Renault, Women at ceci, etc. Les femmes essayent de s'organiser, de réfléchir ensemble, de voir comment. Mais un club comme ça, présidé par une femme comme ça, avec la puissance de feu qui est de dire « Je vais prendre rendez-vous à l'Élysée et j'ai une sorte de puissance qui peut aller jusqu'à aider à faire nommer quelqu'un à la tête d'une entreprise de CAC 40 », toutes les femmes que j'ai rencontrées m'ont dit « Ça n'existe pas ».
Emmanuel Blachet, Jean Baumel, il vous faudra plus qu'une poignée de soutien et un peu de presse si vous voulez gagner cette bataille, vous savez.
Des compétences peut-être.
C'est compliqué de raconter la vie de quelqu'un voilà, qui a fait des belles études, qui a un bel appartement, qui a déjà un bon boulot, etc., etc. Et je me dis, pour que ce soit partageable par tout type de spectateur, qu'on ait quand même envie qu'elle gagne, il faut bien qu'elle ait quelque chose de... Possiblement qu'on puisse s'identifier à elle, parce que sinon, elles sont quand même rares pour l'instant, ces femmes.
Le pouvoir, le sexe et l'argent. Et aucun mec ne cumule les trois, c'est deux max. Et toi, c'est le pouvoir et l'argent.
Dans le cinéma, je ne crois pas qu'on ait jamais refusé de financer un film parce qu'il était fait par une femme. Ça, je n'y crois pas. J'ai autant de copains masculins qui ont des problèmes. Un film est un prototype, etc. Il y a peut-être un peu moins de productrices, encore qu'elles arrivent en nombre aussi. Et c'est quand on arrive dans la finance, vous voyez, dans les endroits où il y a... Voilà, là, ça se raréfie un peu. Et donc, ça serait bien qu'il y en ait plus. Toujours pour la même raison.
Baumel va se déchaîner contre Emmanuel.
Toi, voulu la guerre ? Tout là.
Je perds, des milliers de personnes sont au chômage. On parle de transfert d'argent contre des informations sensibles. Ce que tu viens de faire est un suicide médiatique.
Pas d'affolement et pas de nervosité. On laisse ça aux femmes, d'accord ?
Vous écoutiez Toni Marshall, la réalisatrice de Numéro 1, film en salle depuis le 11 octobre. Et puis Toni Marshall, lors de cette conférence de presse, eh bien, nous a parlé d'un film qui a pu l'inspirer, c'est Margin Call.
C'est un des meilleurs films sur l'entreprise, même si ça, en unité de temps, c'est-à-dire ça se passe en une nuit. Mais... Et c'est, vous savez en combien de jours il a fait ce film ? En 17 jours. C'est un type qui a un talent fou, c'est un des meilleurs réalisateurs américains.
Alors, si j'ai tenu à passer ça, c'est parce que je le pense aussi. C'est J.C. Sandor, film de 2012, donc Margin Call. Si vous l'avez raté, celui-ci, il faut aussi le voir.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà.
Cinérama.
Ce n'est guère réjouissant.
Après Belle et Sébastien, en 2013, adaptation de la série des années 60, l'aventurier Nicolas Vanier nous plonge eh bien, cette fois-ci encore plus loin, dans les années 30, et quitte les Alpes pour la Sologne, la région de son enfance, avec l'école buissonnière. C'est dans cette région que Nicolas Vanier a développé son goût pour la nature et sa connaissance de la forêt et des animaux. Sachant qu'une bonne partie de sa filmographie nous emmenait dans les contrées froides que sont l'Alaska, le Canada ou la Sibérie, on gagne ici des degrés, mais pas forcément pour la bonne cause. Nous sommes donc en 1930, on suit Paul, qui n'a toujours qu'un seul et même horizon, les hauts murs de son orphelinat situé en banlieue ouvrière parisienne. Mais changement de décor, le voilà maintenant confié à Célestine, une femme de la campagne, et à son mari Borel, le garde-chasse d'un vaste domaine en Sologne. L'enfant des villes arrive donc dans un monde où la nature est omniprésente, d'autant qu'il y rencontre Totoche, personnage fascinant interprété par François Cluzet en mode barbu qui n'a pas connu le barbier. Totoche est, paraît-il, libre, il vit au plus près de la nature, sur son bateau, il vit et se nourrit de ce qu'il braconne. C'est donc à une initiation que le petit Paul va avoir droit, mais il devra se méfier de celui qui le nourrit, le garde-chasse, qui a juré de mettre Totoche, son grand ennemi, en prison. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, écoutons un dialogue qui mêle Paul au fameux Totoche. C'est une séquence qui nous permet de voir comment pêcher à la mouche, puisque Totoche prépare minutieusement son appât.
Qui vous a appris ?
Appris quoi ?
Bah, la pêche, la plante, les animaux.
Bon, tout. J'ai appris tout seul, à force de regarder. C'est quand j'avais ton âge, même un peu plus petit, on était 10 à la maison. Le père, il m'a dit « Trop de bouche à nourrir, j'étais pressé comme garçon vaché. »
On entend dans cette séquence le son à la française, hein, où ça marmonne, obligeant le spectateur à tendre un peu l'oreille, mais aussi le fond sonore avec ses canards et son ambiance rurale. Ce qui tenait à cœur Nicolas Vanier, plus que de raconter une histoire qui n'est pas très intéressante, faute de personnages bien écrits, c'est de montrer la nature telle qu'elle est, avec ses codes, ses gagnants, ses perdants. On y entend donc les oiseaux, on y voit le plus grand cerf de la forêt, ou encore eh bien, un renard. Tout cela peut contenter, la nature est un personnage à part entière. Mais c'est tellement mieux dans un documentaire qui prend le temps. Ici, il s'agit quand même d'une fiction, hein, avec des personnages clés. Il y a le braconnier qui incarne la liberté, concept quand même à méditer. Le garde-chasse incarne la répression. Le comte qui détient les terres représente l'ordre. Le petit garçon, l'innocence. Et la femme, eh bien, la bonté. Alors avec un tel canevas tout ronronne, si certains personnages évoluent, c'est le minimum, on peut reprocher quand même à Nicolas Vanier de les avoir écrits en tirant de gros traits. Et le jeu tout en force de François Cluzet et Eric Elmosnino n'aide pas à y apporter des nuances. Tout cela pour aboutir à une sorte d'happy end décevante, gnangnan, faisant passer cette histoire pour une aimable fable maladroite sur la perte des valeurs comme leur transmission et l'éloignement de l'homme vis-à-vis de la nature. Nicolas Vanier a voulu retourner dans les années 30 pour y noyer plus facilement couleurs, textures et nature, mais ce choix, plutôt que de dynamiser le film et transcender l'histoire, eh bien, nous plonge dans une atmosphère passéiste, un peu défraîchie du « c'était mieux avant ». Si vous voulez voir Cluzet dans un numéro de voltige qui l'éloigne du César, si vous voulez voir des images de la faune sauvage qui gambade dans nos forêts ou encore la cueillette des champignons, eh bien vous pouvez aller voir hein, l'école buissonnière. Si vous cherchez une histoire bien tenue par une mise en scène inspirée, d'autres films peuvent vous contenter.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Ben alors on va plonger dans un univers beaucoup plus violent et urbain avec Détroit. Alors depuis son premier film, hein, le très arty Loveless, Catherine Bigelow s'est imposée comme la réalisatrice américaine la plus importante, capable de développer des obsessions personnelles dans le cadre de productions vouées initialement au divertissement. Alors pour mémoire, hein, on lui doit un splendide film de vampire, Aux frontières de l'aube, un polar fétichiste, Blue Steel, le cultissime crypto-gay Point Break et un film de SF visionnaire Strange Days. Alors l'ex-dame de James Cameron hein, n'a cessé de repousser les limites de son cinéma sur le plan formel et de se renouveler. Depuis Des mineurs, les lignes ont bougé. Elle s'est affranchie du cinéma de studio pur et simple pour aller vers une approche frontale du 7e art en s'emparant de sujets sérieux, puisant dans l'actualité récente. Alors, revers de la médaille, en réalisant Des mineurs et Zero Dark Thirty, la cinéaste a suscité beaucoup d'incompréhension, notamment dans son refus d'apporter des réponses et de délivrer un message clair, au point d'apparaître pour certains comme une réactionnaire véhiculant une idéologie douteuse, justifiant aussi la violence comme seul rempart à la barbarie. Alors c'est un peu réducteur, mais pas faux. Elle est fascinée par la violence, mais ne me semble pas la justifier. Et son nouveau film en est la réponse la plus éclatante.
J'imagine que c'est pour ce qui s'est passé au motel. Qu'est-ce qui s'est passé au motel? Si vous le savez pas, je vais vous le dire. Je gardais une boutique près de la rue Wisconsin. Et le mardi soir, on a entendu des coups de feu qui semblaient venir de l'Algérie. La police est arrivée. Ça s'est mis à tirer de partout.
Détroit est initialement une commande hein, visant à commémorer la révolte des Noirs dans la ville du Michigan, il y a de cela 40 ans. En 67, les États-Unis connaissent donc une vague d'émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam traumatise la nation et la ségrégation raciale, encore présente, est de moins en moins acceptée par une population noire en ébullition. Alors à Détroit, hein, dans un climat insurrectionnel où règne le chaos comme dans une guerre qui ne dit pas son nom, des coups de feu sont entendus. Les forces de l'ordre, avec l'aide de l'armée, vont encercler un motel d'où proviendraient les intonations. Alors méprisant les lois et la présomption d'innocence, des policiers en surchauffe, frustrés et racistes, soumettent des clients noirs, bien sûr, mais aussi deux jeunes femmes blanches à un interrogatoire brutal pour extorquer des aveux qui n'ont pas lieu d'être. Bref, dans une atmosphère de tension extrême, les flics vont se lâcher, se croyant sans doute en pleine guerre légitime. Le bilan sera très lourd, plusieurs morts gratuits, et surtout l'histoire, ben, je spoil, mais c'est la vérité, c'est le réel, hein, donc ne condamnera pas cette bande d'assassins en uniforme. Alors, dès les premières images, filmées dans un style brut, proche du documentaire, où la réalisatrice insère des images d'archives, l'immersion est totale. Bigelow nous embarque en enfer et ne nous lâchera pas une seconde. En resserrant son récit dans un lieu clos, elle livre une implacable démonstration du sentiment de toute-puissance qui galvanisait une partie des forces de l'ordre incapables d'accepter la mutation d'une société. Elle transforme en fait un fait divers effrayant en une parabole politique magistrale sur le racisme qui n'a pas besoin de grands discours pour secouer un spectateur médusé. Alors la toute-puissance formelle du film hein, transcende un scénario déjà brillant qui dresse un portrait peu flatteur de l'Amérique. La caméra au plus près des corps et des visages enregistre à merveille la peur, le sentiment d'injustice qui frappe les victimes d'une mauvaise blague au départ d'ailleurs, hein, le coup de feu tiré d'un pistolet avec des balles à blanc. Tout juste peut-on reprocher une galerie de personnages parfois caricaturaux, mais ce choix de ne pas nuancer le propos est aussi la force de ce film fascinant, radical et intelligent, porté par une direction d'acteurs impressionnante, dont Will Poulter, hallucinant flic raciste, bourré de préjugés, de rancœur et de haine incontrôlée. Alors il incarne une figure du mal, hein, non pas fascinante, mais parfois érotisée par la caméra de Bigelow, ce qui ne manquera pas de provoquer à nouveau une polémique autour de son film, qui est moins ambigu que ses précédents, tout en se refusant à tout manichéisme. Alors à mon avis, un très grand film, hein, que seul quelqu'un comme je pensais à Michael Mann ou William Friedkin aurait pu réaliser.
Film qui est sur les écrans depuis le 11 octobre, comme l'atelier de Laurent Cantet. On l'aime bien, Cinérama. À chaque nouveau film, on a le plaisir de le rencontrer, de vous en faire profiter. Eh bien, Laurent Cantet sort donc l'atelier, un film avec Marina Foïs et des acteurs non professionnels. Il fait la tournée des cinémas aux côtés de son acteur principal, Mathieu Lucci. Et c'est Marine qui va nous en parler.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
À l'heure où son binôme de toujours, Robin Campillo, triomphe avec son film 120 battements par minute, Laurent Cantet va-t-il revenir sur le devant de la scène cinématographique française grâce à son nouveau film L'Atelier ? En effet, le cinéaste qui avait triomphé à Cannes en 2008 et obtenu la Palme d'Or pour Entre les murs n'a pas, depuis, eu la carrière escomptée, puisqu'il a d'abord essuyé l'échec de son film américain Foxfire, celui ensuite de sa comédie Cucu de Quinca cubain Retour à Ithaque, et pour finir sa participation au film à sketch 7 jours à la Havane n'avait pas vraiment marqué les esprits. Dans l'atelier, comme dans Entre les murs, il est question de transmission, de pédagogie, sauf que nous ne sommes plus du tout entre les murs, nous sommes sur les hauteurs de la Ciotat, dans une villa baignée de soleil, dans laquelle Olivia anime un atelier d'écriture. Elle est auteure de Polar et cet atelier est pour elle une façon d'amener de jeunes adultes en échec professionnel à écrire un roman commun. Le film commence comme une comédie sociale avec une galerie de personnages forts en gueule, plus vrais que nature, entourant une Marina Foïs très convaincante dans son rôle d'écrivain parisienne qui fait un peu tache au milieu de tous ses accents du Sud. Et puis très vite, les scènes légères deviennent plus pesantes, le film bascule lentement mais sûrement vers le film noir. L'un des adolescents, Antoine, intrigue Olivia, en rupture avec le reste de la bande, le jeune homme lorgne du côté de l'extrême droite et s'intéresse au discours nationaliste d'un certain Morel, prédicateur sur le web, figure populaire et vindicative de YouTube, dans lequel tout le monde reconnaîtra bien sûr Alain Soral. Alors entre l'élève et la professeure, il y a une fascination mutuelle, un désir peut-être, un intérêt certain, mais le film parviendra toujours à éviter la démagogie simpliste. L'atelier est un film noir mais solaire qui a su parfaitement saisir l'air du temps en mêlant l'histoire industrielle de la Ciotat, dont il est souvent question, et problèmes d'actualité tels que la peur du terrorisme ou encore la montée de l'extrême droite. Comme souvent chez Cantet, les scènes de dialogue à plusieurs personnages et bâtons rompus confinent à la perfection, tant la caméra sait se mettre à hauteur des personnages et tant les dialogues, coécrits encore une fois avec Robin Campillo, sonnent juste, aboutissant à un film très bavard, c'est vrai, mais jamais redondant et véritablement passionnant de bout en bout. Seul bémol peut-être l'épilogue, épilogue un peu artificiel qui semble avoir été ajouté pour ne pas trop noircir un film déjà bien sombre, mais néanmoins très réussi. On écoute justement Laurent Cantet qui nous parle de L'Atelier, accompagné de son comédien Mathieu Lucci.
Allez, faut se jeter à l'eau. N'ayez pas peur de dire n'importe quoi, c'est pas grave.
Ben, pourrait y avoir un meurtre.
Ah oui, un meurtre pour un roman noir, c'est un bon début.
Pour essayer de tracer le portrait de cette génération, ben, c'était intéressant de regarder ce qu'aujourd'hui les jeunes pensent du monde qu'on leur lègue. Et en particulier, essayer de faire le point sur l'ennui qu'ils peuvent éprouver face à ce qu'on leur propose. Mais j'espère qu'on est vraiment en prise avec notre société d'aujourd'hui.
C'est obligé qu'il se passe ici, le roman.
L'intérêt de cet atelier, c'est un peu de vous permettre d'écrire sur votre ville, sur votre environnement immédiat.
Un roman, c'est une fiction. On va pas écrire en se renfermant sur nous-mêmes ou en se regardant dans une glace, c'est con.
J'ai l'impression qu'on peut aussi essayer d'y trouver l'origine de la fascination des jeunes pour des extrémistes de tout poil qui essayent de leur proposer que quelque chose se passe dans leur vie.
Vous savez, moi, ça, comme décor, ça me va. Hein. Ce serait bien de retrouver un cadavre sur un yacht comme ça au milieu du chantier.
Pas mal. Comme ça, nous, on a notre chantier naval et toi, t'as ton yacht de milliardaire. Bien joué.
Mais non, mais comme ça, on rejoint l'idée de Booba, là, on le retrouve calaché dans sa baignoire à la Scarface. Là.
N'importe quoi, on avait dit que ça devait être lié au passé, aux grèves, aux luttes, non ?
Ou toi, tu veux que l'histoire, ce soit un ouvrier qui revienne 20 ans après s'être fait virer pour tuer un milliardaire américain ? Un communiste qu'à la haine, quoi.
Bah, mon grand-père était communiste, ça te dérange?
Bah non, bah, t'as trouvé ton assassin. C'est un vieil arabe communiste en chaise roulante qui a fait le coup.
Bah mon grand-père était pas handicapé, moi je te le dis.
Pour apprendre à connaître Antoine et à pouvoir l'incarner, j'ai beaucoup parlé avec Laurent et il m'a expliqué beaucoup de choses. Il m'a expliqué sa façon de penser, sa façon d'être, sa façon de réagir sur certaines choses. Et je dis que Laurent m'a beaucoup expliqué et beaucoup dit, et Laurent dit que non. Donc c'est sur ça qu'on n'est pas d'accord.
Très rapidement, moi j'ai senti, et c'est pour ça que tu es dans le film, j'ai senti que le personnage, sans du tout le cautionner ce qu'il peut être ou dire, d'abord tu l'avais saisi et tu l'aimais, quoi.
Je trouve que le texte d'Antoine, pour un premier jet, est plutôt bien écrit.
C'est raciste ou vous le défendez?
Non, je le défends pas. J'essaie juste de comprendre.
Dans tous mes films, de toute façon, il y a un peu cette question-là de comment est-ce qu'on négocie sa place dans le groupe et du coup plus largement dans le monde, quoi. Mais c'est vrai que là, on est face à quelqu'un qui n'est pas à sa place dans ce groupe et qui, en même temps, en a vraiment besoin. Parce que je pense que d'ailleurs, c'est lui qui, d'abord, qui fait marcher l'atelier et c'est lui qui va en retirer le plus, malgré toutes les résistances qu'il oppose au groupe, à Olivia, à l'idée même de ce qu'on va écrire. Enfin, peut-être qu'on peut tous se reconnaître là-dedans. On en a envie et en même temps, parfois, c'est lourd, quoi.
Par exemple, ce que propose Malika, que notre histoire soit liée au passé communiste de la ville, c'est pas mal.
En fait, vous voulez faire un roman politique, vous voulez pas faire un roman noir, vous pouvez le dire.
Ah, mais non, mais moi, je veux rien.
Ouais. Vous voulez rien? Vous voulez faire croire ça à qui, ici?
Bah, c'est pas comme ça que je le sens, mais bon.
Les questions qu'Antoine pose à Olivia sur la façon de mener cet atelier sont des questions que moi, je me pose à chaque fois que je prépare un film avec des jeunes ou des non-professionnels, avec la peur, quand même, d'être toujours le marionnettiste qu'Antoine reproche à Olivia.
Puis tu sais, Antoine, un roman policier peut tout à fait être connecté aux politiques. C'est souvent le cas, d'ailleurs.
Ah, mais madame, c'est bon, ça le met mal à l'aise de parler de politique.
N'importe quoi, c'est pas que ça me met mal à l'aise, c'est juste que ça m'intéresse pas.
Ça, on sait très bien ce que ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique.
Oh, ta gueule.
S0, tu l'as tué.
Ça, je ne m'en défends pas, hein, d'avoir des préoccupations qui sont à la fois politiques, sociales, économiques. Voilà, mais je n'ai pas envie que le film ne soit que ça.
Au fond, je suis persuadée que t'es beaucoup plus intelligent que ce que t'essaies de faire croire.
Ça, c'est ce que vous vous racontez. Vous vous intéressez à moi parce que je vous fais peur.
Mathieu Lucci, le comédien, Laurent Cantet, le réalisateur, c'était l'interview de Cinérama.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
J'ai vu en toi ce que quelqu'un avait vu en moi autrefois. Quelque chose qui ne s'apprend pas. L'étoffe d'un Kingsman.
Alors pour ceux qui ont suivi le premier volet de la série Kingsman, ils le savent, l'agent Galahad, interprété par Colin Firth, est passé à trépas. Hein. C'est maintenant son cadet Exy qui mène l'action. Il va avoir du boulot car l'agence Kingsman, qui se cache derrière un magasin de costumes 3 pièces impeccable, est touchée par une attaque de celle qui s'autoproclame alors la plus dangereuse criminelle du monde. Il s'agit de Poppy, une trafiquante de drogue, interprétée par Julianne Moore en roue libre. Kingsman, plus bas que terre, le salut viendra des États-Unis où Exy et l'indispensable Merlin, hein, qui prépare tous les gadgets, vont aller chercher de l'aide chez les Statesman, une société secrète, elle aussi, mais qui se cache derrière une distillerie de bourbon. C'est un peu la finesse britannique qui s'allie à la rusticité américaine. D'un côté, on a le parapluie, de l'autre, un lasso. Mais attention, il est laser et facilite la découpe. Les deux sociétés secrètes n'auront qu'un but, venir à bout de la menace Poppy, puisque cette menace est évidemment planétaire. Alors cet épisode de Kingsman use des mêmes ingrédients que le premier volet. On s'amuse du film d'agent secret en dopant tout ce qui peut l'être. On y trouve des gadgets délirants, des scènes d'action ponctuées d'ultra-violence quasi guignolesque, un humour omniprésent, rien qui ne s'apparente à du premier degré. Dans le premier volet, c'était Samuel Jackson qui incarnait le méchant. Ici, c'est Julianne Moore donc, qui incarne Poppy, américaine tirée à 4 épingles. Elle est retranchée dans la jungle où elle a créé Poppyland, une ville rien que pour elle, dans une ambiance années 50. Sa menace est une belle trouvaille puisqu'il s'agit de faire repérer par tous les autres ceux qui prennent de la drogue. On s'aperçoit que toutes les couches de la population sont touchées. Et la réponse du président américain à ce problème sera très éloignée de ce qu'on voit habituellement notamment dans les blockbusters. C'est le côté un peu irrévérencieux du réalisateur. De même, si on prend Kingsman pour un James Bond délirant, le héros ne va pas de bras féminins en bras féminins. Le jeune agent secret s'est énamouré de la princesse suédoise et quand une mission l'envoie dans le lit d'une autre, eh bien, il en fait une question éthique. Alors formellement, il faut s'habituer au bavardage et à la caméra qui tournoie pendant les scènes d'action, ponctuées de ralentis, pour ne rien manquer de la mise à mort. On doit également s'habituer aux placements de produits hein, qui sont très voyants, mais le casting est 4 étoiles, avec Julianne Moore, il y a aussi Halle Berry et Channing Tatum, alors qu'on voit peu parce qu'il n'était pas très disponible, donc ils ont trouvé une astuce pour qu'il apparaisse peu à l'écran. Kingsman est dans les salles depuis le 11 octobre.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il va falloir contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui ?
À quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
On se retrouve la semaine prochaine avec une autre interview, celle de Lorraine Lévy, réalisatrice du film Knock. On parlera aussi de La Belle et la Meute, et puis de Square, et puis de dessins animés.
La Passion Van Gogh, entre autres.